Patrick Boucheron sur France Inter.
Bonjour à toutes, bonjour à tous. Le 10 novembre 2021, le tribunal judiciaire d'Évry a signé une convention avec le mémorial de la Shoah en vue d'imposer aux mineurs poursuivis par des actes de racisme, d'antisémitisme et d'homophobie un stage de citoyenneté. Celui-ci doit, je le cite, « déconstruire les préjugés, les idées toutes faites à l'heure du complotisme et des discours de haine propagés sur les réseaux sociaux ». L'intention est louable, le procédé interroge. Mais si nous devons parler en historien des nouvelles recherches sur la Shoah, qui se sont considérablement développées depuis une trentaine d'années, et c'est ce que je vous propose aujourd'hui, comment ne pas partir des questions et des hantises actuelles ? En 1985, le film monumental de Claude Lanzmann, Shoah, qui donne à la destruction des Juifs d'Europe pendant la Seconde Guerre mondiale le nom hébreu disant l'anéantissement, nom définitif pour désigner l'innommable, Shoah donc se dit depuis l'aujourd'hui. L'action commence de nos jours à Chełmno, sur Nel, Pologne. C'est ainsi avec l'histoire. Elle commence toujours de nos jours. Mais puisque l'on parle d'action, que faire aujourd'hui pour rester contemporain de cet événement et de ce qu'il exige de nous ? Chacun répondra depuis sa place. Celle des historiens est invariable. Ils produisent des savoirs nouveaux, ils les partagent pour les rendre socialement disponibles et, j'allais dire, employant une expression de Marc Bloch, serviables à tous. Voici très exactement ce que fait aujourd'hui cette nouvelle histoire de la Shoah, parue chez Passé Composé, synthèse savante et accessible. Nous recevons l'un de ses co-directeurs, Alexandre Bande, qui sera rejoint dans la seconde partie de l'émission par l'historienne Audrey Kichelewski, l'une des autrices du livre, avec le sociétaire du jour, Pape Ndiaye. Alexandre Bande, bonjour.
Bonjour Monsieur Boucheron.
Je vous ai connu médiéviste.
Il est vrai.
Vous avez publié chez Talendier en 2009 un beau livre intitulé « Le cœur du roi », une enquête sur les sépultures multiples des rois capétiens à la fin du Moyen-Âge. Je vous ai connu médiéviste et je vous ai retrouvé historien de la Shoah dans des conditions particulières. C'était lors d'un voyage à Auschwitz avec vos élèves et d'autres, des lycéens. Qu'est-ce qui s'est passé ?
La question relative à l'histoire, à la mémoire et à l'histoire de la Seconde Guerre mondiale, et plus particulièrement à celle de la Shoah, m'ont toujours beaucoup préoccupé, ces deux questions. J'ai eu la chance de les enseigner depuis très longtemps. J'ai eu une longue carrière d'enseignant, en particulier dans le secondaire, avant d'enseigner dans le supérieur depuis une vingtaine d'années. Et j'ai toujours été amené à accompagner mes étudiants et mes élèves préalablement sur des lieux que je considérais comme étant essentiels, des lieux d'histoire et de mémoire. Ça a commencé par Verdun, ça a commencé par les plages du débarquement. Et puis, au début des années 2000, j'ai souhaité aller plus loin dans la démarche et accompagner des classes de terminale du lycée Condorcet où j'enseignais alors, sur ce lieu symbolique qui est le lieu d'Auschwitz-Birkenau. Et à partir de ce moment-là, tout en publiant et en bouclant ma thèse, parce qu'on était au moment où je publiais ma thèse, enfin je terminais ma thèse avec Colette Beaune, j'ai approfondi mes connaissances, mon travail, et en quelques années, je me suis retrouvé à devenir membre de la commission enseignement de la Fondation pour la mémoire de la Shoah, accompagné de nombreux voyages et déplacements de mémoire, à publier quelques articles et quelques écrits, à produire un web documentaire avec mes amis et collègues de Canopée, et progressivement à devenir, on sait très bien, vous et moi, que on est dans un milieu universitaire où on est souvent catalogué, rangé à une place et on nous demande de pas en sortir. Et j'avoue que cette évolution, je la revendique et j'en suis fier.
Vous publiez donc, Alexandre Bande, une nouvelle histoire de la Shoah avec deux coordinateurs. Donc l'un, Pierre-Jérôme Biscarin, travaille au service pédagogique justement du musée des enfants d'Izieux, auquel il a consacré un livre poignant, « Izieux des enfants dans la Shoah », paru chez Fayard en 2014. Et l'autre, Olivier Lallieu, est l'auteur de « La résistance française à Buchenwald », paru chez Talendier en 2019. Et il est historien au mémorial de la Shoah, qui est un grand centre de ressources. Donc ce qui vous réunit pour penser cette grande synthèse, très accessible, on va y revenir dans la deuxième partie de l'émission. C'est une espérance et un idéal, c'est une exigence de transmission.
de transmission et de réflexion. Nous qui voyons Olivier Lallier au mémorial, Pierre Jérôme à l'époque où il était à Lisieux et moi en permanence sur le terrain avec mes étudiants et mes élèves, transmission, réflexion et en même temps une ambition qui consiste à mettre en commun nos savoir-faire, nos compétences et nos envies d'aller toujours vers les lecteurs, vers le public pour, et on le sait, ils sont nombreux en ce moment, combattre les a priori, combattre les malentendus et considérant que le lieu d'histoire est un lieu où un certain nombre d'éléments qu'on peut voir dans les livres, voir dans les films, ou voir tout simplement au détour d'un regard peut-être sur une émission de télévision sont des lieux où on apprend des choses.
On va parler des lieux justement avec vous, Alexandre
Bond. Et je crois qu'on a en commun c'est tous les trois cette chose-là, cette importance des lieux.
Voilà. Des lieux de ce que d'aller dans les lieux même où cela s'est passé pour faire de l'histoire, ces lieux d'histoire.
Historiciser les lieux de mémoire.
Oui, et c'est important parce que Yanis Roder, qui signe l'article « Les défis de l'enseignement de la Shoah », lui enseigne dans un collège sensible de la région parisienne et dirige l'Observatoire de l'éducation de la Fondation Jean Jaurès, c'est ça. Alors, c'est un article qui est intéressant, qui soulève les questions civiques et émotionnelles de cet enseignement, qui appelle à l'extraire de cet halo moralisateur et qui précise le premier des défis, c'est de considérer cet enseignement comme un enseignement historique.
Il faut faire de l'histoire et on a quand même la chance en France de pouvoir faire de l'histoire dans un cadre qui est très clairement précisé par les programmes de l'éducation nationale. Dès l'école primaire, nos enfants sont confrontés à cette terrible histoire en CM2, au collège en 3e, dorénavant avec les nouveaux programmes au lycée. Et il est nécessaire de donner des cadres chronologiques, géographiques, spatio-temporels, précis, pour permettre au plus grand nombre d'entrevoir, je ne dis pas de comprendre, parce qu'il y a un certain nombre d'éléments qui sont toujours très compliqués à saisir, mais d'entrevoir, de s'approcher de la réalité des faits pour éviter les malentendus et les poncifs qu'on entend encore malheureusement trop fréquemment.
Je voudrais vous faire réagir à une phrase du livre de Christophe Cognier, Éclat, qui est paru en 2019 et qui est une formidable enquête sur les photographies clandestines prises dans les camps nazis comme autant d'actes de résistance. Il écrit « Je fais partie de cette génération d'élèves à laquelle il a été montré en classe Nuit et brouillard, donc le film d'Alain René, 1956. Pour ma part, c'était en 5e. Dans mon souvenir, il s'agissait peu ou prou d'une punition, mais peut-être était-ce au contraire une sorte de promotion. » Et il écrit que il en sort parce qu'il n'avait pas été préparé, bouleversé. C'était le moment où on pensait que à chaque vague de retour de la haine, il y avait un vaccin, disait Serge Danet, à chaque rechute. Ça faisait partie, je le cite, d'un arsenal secret qui, à la récurrence du mal, pouvait indéfiniment opposer ses vertus d'exorcisme. Et vous, vous pensez tout le contraire. Vous pensez que si on n'est pas préparé, au fond, l'image, elle ne sert à rien.
C'est ça. Nous pensons collectivement, et je pense que c'est également, et je suis sûr que c'est le propos de mes collègues et de nos collègues historiens et historiennes, que l'approche que l'on doit proposer aux jeunes élèves et aux moins jeunes de l'histoire d'un génocide, et en particulier l'histoire de la Shoah, ce qui nous préoccupait sur cet ouvrage, nécessite un processus d'acquisition de connaissances, de réflexion sur les documents, sur les sources, et que, bien sûr, certaines de ces sources sont d'une violence extrême, mais qu'on ne peut pas livrer en pâture au public des images choquantes dans le but de le faire réagir, de le faire réfléchir, car on obtient, je crois, un effet totalement inverse, totalement contre-productif. L'image, si tant est qu'on puisse l'utiliser, et il est souvent nécessaire de le faire dans sa cruauté, dans sa dureté, elle doit être préparée, elle doit être accompagnée par un discours, et elle doit générer une réflexion. Je vois concrètement, on en parlait il y a un instant, des étudiants de Sciences Po de deuxième année, quand ils découvrent des photos des fusillades massives, ont besoin d'un temps de recul et d'un temps de réflexion. Donc imaginons un élève de collège en 5e, moi je me souviens très bien, j'ai vécu la même chose.
Donc c'est traumatisant.
C'est un traumatisme qui n'a pas de portée pédagogique, dans la mesure où on voit un amalgame de corps, on voit un amalgame d'images abominables, mais dissocier ce qui est du domaine de la concentration que ce qui est du domaine de l'extermination, c'est excessivement compliqué. D'ailleurs, les images de Nuit et brouillard n'avaient pas cette possibilité, cette finalité-là, et ça ne met pas du tout en activité la partie de la réflexion d'individu qui consiste à se dire comment c'est arrivé, à quel moment c'est arrivé, où c'est arrivé. On suscite un choc, mais qui, d'ailleurs, l'histoire l'a montré depuis cette fameuse période où nous avions 15-16 ans, il y a 30 ou 35 ou 40 ans, ça n'a pas empêché un certain nombre de choses et un certain nombre de discours. Donc le choc doit être là, potentiellement, mais seulement s'il est précédé par une réflexion et suivi par un débat ou une discussion.
D'où la question des lieux. Le cinéma d'Alain Resnais, puis celui de Claude Lanzmann, ramène l'histoire du crime en ses lieux mêmes. Je voudrais vous faire écouter une scène du début de Shoah. Écoutez, oui, parce que nous sommes à la radio. Alors, je vous décris brièvement les premières images. Nous sommes à Chemno, cela je l'ai déjà dit, à Chemno de nos jours. Et ce fut un camp polonais qui était le premier centre d'extermination nazie où les juifs, 150 000 juifs, furent assassinés au moyen de gaz asphyxiant. C'était pas encore des chambres à gaz, mais des camions. Et à partir de décembre 41, Chemno est non seulement le laboratoire, mais l'école du personnel nazi de la mise à mort. Il n'y a eu que 3 survivants, dont Simon Srebnik, qui fut l'un des témoins au procès Eichmann. Il avait 13 ans. En 1941, les Allemands le prirent comme mascotte car sa voix était mélodieuse. En 1945, ils lui tirent une balle dans la nuque et le laissent pour mort, mais l'enfant chanteur a survécu. Et c'est lui que la caméra de Claude Lanzmann suit sur une barque qui glisse sur la Nel.
Mały biały domek, my pamięci twi. Mały biały domek, ciągle mi się śni.
Jeśli był dzieciak, 13,5 roku miał, no to przecież co mógł, to śpiewał. No tak, ładny, bardzo ładny głos miał i śpiewał.
Il avait 13 ans et demi, il avait une belle voix, il chantait d'une façon très belle et on l'entendait.
Jakbyś się oczy przechodzili łzą.
Naprawdę, że jak ja usłyszałem, to serce mi zupełnie zadygotało. Mówię, to jest taka morderstwo.
Quand je l'ai entendu, mon cœur a battu beaucoup plus fort parce que ce qui s'est passé ici, c'était un meurtre. J'ai vraiment revécu ce qui s'est passé.
Świeże, kiedy nawet zasłała się. Da waren gebrennt Leute, viele Leute waren hier verbrannt. Yeah, that is the place.
Difficile à reconnaître, mais c'était ici, oui. C'est là que les gens étaient brûlés. Beaucoup de gens ont été brûlés ici, oui. C'est le lieu. Da ist das Platz. C'est comme ça que vous commencez votre article, Da ist das Platz. Alexandre Bande, votre article sur l'enseignement de la Shoah. C'est-à-dire, au fond, ce paradoxe qui est bouleversant quand on vient dans les lieux mêmes, qui est qu'il n'y a rien à voir, puisque c'est le lieu du crime, mais aussi le lieu où l'on a méthodiquement effacé les traces du crime. Shoah est un film sur le silence et l'oubli, c'est un film sur l'extermination, et l'extermination ne laisse pas de traces, c'est Claude Lanzmann qui le dit. Donc il n'y a rien à voir, et ça pose toute la question du voyage mémoriel. Pourtant, il faut quand même y aller voir.
Il y a une réalité, celle du terrain. Et le lieu, même si on a l'impression au départ qu'il n'y a rien à voir, laisse toujours filtrer quelques informations, qu'elles soient topographiques sur les lieux où ont été enterrés des corps en quantité, ce qu'on appellerait des charniers ou des fosses communes, que ce soit parce qu'il reste un élément constitutif d'un bâtiment, je pense ici au crématoire 2, 3, 4, 5, du gigantesque espace que fut Birkenau, mais où pourtant ces lieux de mise à mort étaient relativement modestes en termes de taille. Je pense également, et nous avions il y a quelques semaines encore avec des étudiants, un moment très fort de recueillement à cet endroit-là, sur ce qu'on appelle aujourd'hui le bunker 2, une des premières chambres à gaz qui a fonctionné à Birkenau. Il ne reste que quelques fondations. Et il est vrai que le touriste lambda, le spectateur, le passant, ne pourrait jamais deviner ce qui s'est produit là. Donc à force de chiffres, de réflexions, de témoignages et d'apprentissage, lorsqu'on se trouve face à cet endroit-là, comme le fait le témoin, la scène de Shoah que vous avez utilisée là, pour moi c'est une des scènes les plus incroyables que j'ai utilisée plusieurs fois en cours également, qui est absolument incroyable parce que justement sur l'espace de Chemno, il y a vraiment plus rien. Là je vous parle d'endroits où il y a encore des fondations, des éléments de bâtiment, mais là il n'y a rien sinon un mémorial. Donc il est certain que si on est sur ce lieu de mémoire sans histoire, la mémoire n'a pas de sens, à part pour ceux qui seraient éventuellement revenus sur le lieu où ils avaient souffert. Mais là, en l'occurrence, dans notre démarche, et donc c'est la mienne qui a accompagné plusieurs dizaines de voyages sur les lieux, je pense que pour que les choses se passent correctement et que l'impact qu'on cherche à obtenir auprès des étudiants et du public qui est avec nous, mais parfois ce sont, vous étiez là, des adultes qui sont également là, c'est-à-dire un impact pas seulement, et c'est pas le but émotionnel, mais un impact intellectuel et une réflexion concernant la transmission des connaissances, le lieu a son rôle à jouer.
Histoire 2. Patrick Boucheron sur France Inter.
Parce que ça a eu lieu, Alexandre Bande, mais évidemment on n'attend rien de magique de la visite au lieu, il faut le préparer minutieusement. Et c'est ça l'histoire, Pape Ndiaye, vous allez venir tout à l'heure, après la pause musicale, lire cette nouvelle histoire de la Shoah. Pourquoi nouvelle ?
Elle est nouvelle parce que, je vais vous donner la parole, elle témoigne de la vivacité des recherches sur le sujet, en même temps que le livre présente de manière très pédagogique, très organisée, différents aspects, chronologiquement précis, avec des éclairages spécifiques sur certaines questions comme celle du ghetto, par exemple, ou celle de la Shoah par balle, dont je puis témoigner à quel point mes propres étudiants de Sciences Po en savent peu. Et donc c'est un livre saisissant par tout cela, et en particulier par sa dimension pédagogique.
On en parle tout à l'heure.
Put your rebels on, baby, giddy up. Baby, won't you dance, baby, get away. Dreamy nights, talk to me with that whiskey breath. Tour me twice, I'll treat you like a holiday. And don't say you're over me when we both know that you ain't. Don't say you're over me, baby, so. Do what you do best with me.
Dance me all around the room.
Spin me like a ballerina super high.
Dance me all around the moon.
Light me up like the 4th of July. Once, twice, three times the guy I ever thought I would meet. So
don't say you're over. Both know that you lie.
If you lie down, lie next to me.
Toujours en compagnie d'Alexandre Bande, co-auteur de la nouvelle histoire de la Shoah, et nous sommes rejoints par Pape Ndiaye, le sociétaire du jour, qui est professeur d'histoire contemporaine à Sciences Po, vous l'avez compris, et directeur général du Palais de la Porte Dorée. Donc, Pape Ndiaye, vous commenciez à lire ce livre et à y voir une synthèse accessible et ouverte qui, finalement, qui fait droit à l'histoire, à toute l'histoire, celle qui commence d'ailleurs par la guerre nazie contre les malades.
C'est cela, avant le déclenchement de la Seconde Guerre mondiale, par un article qui fait très bien le point sur ces réglages, peut-on dire, du génocide, qui commence par celui des faibles d'esprit et de celles et ceux qui ne méritent pas de vivre, et puis qui ensuite va prendre toute son ampleur en direction des Juifs, en particulier pendant la guerre. Et ce processus-là peut être vu sans doute dans une continuité qui ne rend pas justice également aux accidents, à ce qui n'était pas forcément prévu d'avance. En quoi on retrouve un débat qui traverse le livre et qui est un débat classique chez les historiens de la Shoah, entre ceux qui insistent sur des intentions qui se déroulent implacablement au long du régime nazi, et puis ceux qui laissent place à l'imprévu, à ce qui n'était pas initialement planifié.
Oui, c'est intéressant ce que vous dites, Papendieck, parce que l'article de Tal Brutmann sur la mise en place de la solution finale permet de comprendre justement comment on dépasse une controverse historique. C'est-à-dire que nous, on a appris la querelle des historiens entre fonctionnalistes et intentionnalistes, et en réalité, ce qu'on comprend, Alexandre Bande, c'est que si la conférence de Wannsee du 20 janvier 1942 est effectivement une étape cruciale dans la création de, disons, d'une politique d'État de destruction des Juifs, elle s'inscrit dans une dynamique assassine qui cristallise à l'Est, à l'été 41, après l'attaque de l'URSS, une dynamique que Tal Brutmann appelle de violence partagée. J'ai été très surpris, par exemple, de voir la violence des pogroms, des massacres en Lituanie, en Roumanie, en Croatie. Tout ça, ça commence, ça flambe dès l'été 41.
Tout à fait, ça commence très tôt et en fait c'est comme le disait Papendieck, quelque chose qui s'est orchestré progressivement sur le temps long. Les premières violences antisémites dans le cadre d'un parti nazi qui veut accéder au pouvoir, les violences d'exclusion, de ségrégation, de les violences verbales des années 33 à 38, qui étaient déjà souvent physiques, la nuit de cristal dont on a commémoré il y a quelques jours le triste anniversaire, puis ensuite la ghettoisation, puis les premières violences physiques qui d'ailleurs accompagnent l'entrée des troupes allemandes en Pologne avant même la ghettoisation, tout ceci s'enchaîne. Et c'est vrai que dans l'imaginaire de certains élèves ou de certains enseignants ou de certains de nos concitoyens, il y a plusieurs étapes, mais en fait les étapes se superposent et les phases, et c'est pour ça que nous tenions à ce que dans cette nouvelle histoire de la Shoah il n'y ait pas tant que ça en termes de révolution, de connaissances. Depuis des gros travaux de certains grands noms de la question, que ce soit Saul Friedlander, que ce soit Timothy Snyder, que ce soit remontant plus loin, Raoul Hilberg ou à l'échelle française, Tal Brutmann il y a peu, ou Annette Viverka, mais ou Henri Rousseau sur les questions mémorielles, mais c'était plutôt une volonté de proposer au lecteur ce qui était nouveau à nos yeux, dans un même ouvrage, une approche récapitulative de constituer de synthèse d'un haut niveau historique, actualisé le plus efficacement possible, et en même temps de proposer également ce qui pour nous est nouveau, l'accès, enfin, au grand public, l'existence d'une nouvelle génération d'historiens, qui sur ces questions, que ce soit Marie Moutier, Thomas Fontaine, Laurent Joly, ou bien d'autres, Cindy Biège, je pense également à son parfait article, son bel article sur la manière dont certains juifs de France ont réussi à se cacher, le sauvetage en France, et en même temps proposer des questions qui étaient relativement nouvelles, qu'on ne voyait pas toujours abordées dans un ouvrage sur la Shoah, en particulier que savaient les alliés ou comment réagit le monde arabo-musulman à ces questions terribles qui nous semblaient être jusqu'aux questions très contemporaines du complotisme ou l'antisémitisme. Ouais, en ce sens qu'elle me semble nouvelle.
Ou bien encore la question délicate de la comparaison des génocides proposés par Yves Ternon entre le génocide des Arméniens à partir de 1915, celui des Juifs, bien sûr, et puis plus récemment le génocide des Tutsis au Rwanda, comme si chaque continent avait eu son génocide. Pratiquement, on pourrait mentionner d'ailleurs la question des Amérindiens, qui fait aussi l'objet en Amérique du Nord d'un discours sur les génocides de ces populations. La légitimité historique et intellectuelle de l'opération de comparaison paraît acquise, mais elle ne va pas complètement de soi, tant elle peut risquer de, sinon banaliser, mais en tout cas de ne plus faire apparaître la singularité de la Shoah.
C'est toute l'ambition de cette approche comparatiste, c'est de réussir à faire comprendre aux étudiants, par exemple, ou à nos lecteurs, qu'il y a des points communs sur l'intentionnalité, sur le vocabulaire, sur les processus de mise en œuvre, voire même sur la mise en œuvre ou l'après-mise en œuvre, la négation, par exemple, qui est une des constantes de tous les génocides, et en même temps de revenir à ce qui nous préoccupait. La Shoah, c'est un génocide exceptionnel dans un certain nombre de registres, et je pense que le lecteur s'y retrouve à la sortie de ce livre.
Nous allons prendre au téléphone Audrey Kishlevski, qui nous fait l'amitié de participer à cette émission. Audrey Kishlevski, bonjour.
Oui, bonjour.
Vous êtes maîtresse de conférences en histoire contemporaine à l'Université de Strasbourg. Vous co-dirigez la revue d'histoire de la Shoah. Vous avez travaillé sur la mémoire de la destruction des Juifs en Pologne, les survivants. Être juif en Pologne depuis 1945, qui est paru chez Belin en 2018. Et vous avez aussi co-organisé un important colloque sur la nouvelle historiographie polonaise de la Shoah, à la suite notamment du travail de Jan Gross. C'est une formidable avancée historiographique et en même temps incroyablement courageuse, j'allais dire héroïque, parce que dans un contexte mémoriel et politique très difficile.
Oui, tout à fait. C'est vrai que c'était de notre devoir de mettre en avant ces historiennes et ces historiens polonais qui ont joué un rôle fondamental dans ce renouvellement historiographique qui permet de mieux connaître ce qui s'est passé en Pologne pendant la guerre et notamment les attitudes de la société polonaise face au génocide, face à l'assassinat de leurs voisins juifs, effectivement.
Leurs voisins juifs, vous parlez, vous faites allusion justement au grand livre de Jan Gross, Les voisins, sur les massacres de juifs en Pologne, avec ce grand geste historiographique en fait de Jan Gross qui ramène l'histoire de la Shoah dans l'histoire polonaise elle-même, finalement, parce que jusque-là, c'était séparé.
Oui, tout à fait. Jan Gross, il y a maintenant déjà une vingtaine d'années, a fait grand bruit avec ce livre Les voisins, hein, qui apportait au grand public des éléments sur cette responsabilité d'une partie de la société polonaise dans les persécutions, dans l'extermination, dans le sort subi par leurs voisins, leurs concitoyens juifs. Et c'est vrai que ça a fait grand bruit à l'époque. Il y a eu un grand débat dans la presse, dans l'opinion publique, des réactions au niveau politique, au niveau éducatif. Et encore aujourd'hui, ces questions sont d'une actualité brûlante et on a l'impression que ce qui semblait acquis et reconnu jusqu'au plus haut niveau politique ne l'est plus, ne l'est moins, en tout cas depuis quelques années, et qu'il y a toute une vague de remise en question de ce travail et des travaux qui ont suivi, de nombreux collègues en Pologne qui ont approfondi cette question et dont les conclusions sans appel sont pourtant remises en cause régulièrement et leur voix parfois même jusqu'à être traînée en justice, comme on l'a vu ces dernières semaines.
Je voudrais vous faire écouter le témoignage d'une rescapée du ghetto de Varsovie. C'était en 1960.
Madame Anna Duracz, vous étiez presque une enfant, une toute jeune fille encore, lorsqu'en 1940, les Allemands vous ont conduit à l'intérieur du ghetto de Varsovie. Vous aviez quel âge ?
J'avais 17 ans en ce moment. Ce que je me rappelle le plus fort en ce moment, ce sont les nuits du ghetto. Le temps dont je parle, c'était le temps de la mort, qui se faisait chaque jour dans l'intérieur du mur terrible du ghetto.
Vous l'avez vu construire, ce mur, Madame Duracz ?
Si, je l'ai vu construire dès les commencements. C'était presque de perdre toute espérance de liberté.
Vous me parliez des nuits du ghetto. Vous avez un souvenir particulièrement présent ?
Oui. Je parcourais les rues du ghetto avec ma famille et les camarades de la résistance qui se tenaient près de nous. On est tombé dans une porte cochée qui donnait sur la cour. On s'approche vers la cour et voilà, on entend que quelque chose de lourd tombe sur la terre. Quelqu'un allume une allumette. Qu'est-ce qu'on voit ? Sur la terre, on voit un cadavre d'une vieillarde qui tient dans ses bras le corps écrasé d'un tout petit enfant. Elle a sauté du quatrième étage, choisissant cette façon du mort.
Difficile de reprendre la parole après un tel témoignage, et pourtant nous sommes historiennes et historiens, donc nous devons bien le faire. L'histoire, on n'a pas le choix. Le ghetto de Varsovie, c'est le premier octobre 1939, c'est le plus grand, un demi-million de juifs y sont emprisonnés, mais ce n'est pas le seul. On en compte près de 1000 dans toute l'Europe, et on réévalue aujourd'hui le rôle des ghettos dans le processus génocidaire. Votre contribution, Audrey Kichelewski, porte sur ce sujet, qui est un sujet neuf.
Oui, en effet, parce qu'effectivement, pendant longtemps, les ghettos ont été vus uniquement ou presque exclusivement comme une étape dans le processus de l'extermination. Et depuis, la possibilité d'accéder aux archives à l'est de l'Europe qui était fermée jusqu'aux années 90. Depuis aussi, une internationalisation de l'historiographie qui permet de faire travailler entre eux de nombreux chercheurs et de croiser les sources, et notamment les nombreux témoignages, les livres du souvenir qui sont collectés. On regarde différemment les ghettos. On a découvert que qu'au-delà des grands ghettos bien connus, comme on l'a vu, le ghetto de Varsovie, il y en avait de nombreux autres, hein, 1100 ghettos, certains tout petits, et de nombreux situés très à l'est de l'Europe. Et cet article montre la diversité dans le temps, dans l'espace, des ghettos qui n'étaient parfois pas ouverts, pas clôturés par des hautes murailles comme à Varsovie, et surtout toute une vie intérieure d'une survie des juifs qui étaient enfermés, dont on peut faire l'histoire et qui avait été pendant longtemps assez sous silence.
Audrey Kichelewski, je l'ai dit, vous co-dirigez la revue d'histoire de la Shoah. Son numéro 2012 est paru il y a un an sous la direction de Laurent Joly, qui est un des auteurs de la nouvelle histoire de la Shoah. Le titre « Vichy, les Français et la Shoah, un état de la connaissance scientifique », c'est peu de dire que cette question est d'actualité, Alexandre Bande, quand le révisionnisme néo-pétainiste revient avec une force stupéfiante et remet en circulation l'argument éculé, dit du moindre mal. Je voudrais qu'on termine l'émission là-dessus. D'où il vient cet argument que, au fond, Pétain, Laval, aurait sauvé les Juifs de France en livrant les Juifs étrangers?
Eh bien, il vient d'un regard très orienté et très parcellaire et très partial d'un certain nombre d'événements qui se succèdent et qui consistent à faire ressortir le fait que les premiers départs, les premières arrestations de Juifs de France concernent, il est vrai, majoritairement des populations juives d'origine étrangère. Et qui explique que lors des premiers convois, et ça se vérifie sur une partie de l'année 42, une partie importante des populations déportées sont déportées parce que juives et parce que venant de l'étranger, à une époque où se superpose, comme montre très bien Laurent Joly d'ailleurs dans son article également, l'antisémitisme et la xénophobie qui est alors très très fortement poussée. Mais également, ce qu'oublient de dire les partisans de cette thèse, c'est que très très vite, dès l'été 42, et même souvent avant, des populations françaises, des populations israélites françaises, comme on disait à l'époque, ont été concernées par les mêmes arrestations, les mêmes déportations et le même processus génocidaire. J'ai en tête un de nos étudiants, un de nos élèves du lycée Janson de Sailly où j'enseigne, qui est parti à l'été 44, qui était un juif français, juif de France, né en France, de parents d'arrière-grands-parents français, qui, au même titre que les juifs allemands, polonais ou tchécoslovaques ou grecs, que la police française et que les autorités allemandes ont contribué à déporter, a été exterminé. Et donc, il y a une malhonnêteté excessivement pernicieuse à vouloir laisser entendre qu'il y a eu une démarche volontaire de la part du gouvernement de Vichy. Ce que montre très bien Laurent Joly, c'est qu'il y avait une logique implacable et que Vichy, en tant qu'État qui a tenté d'exister face à l'occupant et tenté de manœuvrer et tenté de freiner certaines velléités nazies, c'est une réalité, mais que dans l'absolu, si on ne fait pas de l'histoire avec des si, mais si la guerre avait été gagnée par les nazis, le régime de Vichy aurait livré tous les Juifs de France aux autorités allemandes. C'est une évidence, et le document annoté de la main du maréchal Pétain, qui est le fameux décret du mois d'octobre 40, montre bel et bien que l'antisémitisme régnait au plus haut lieu de Vichy, et que les Juifs de France, s'ils ont pu proportionnellement être moins nombreux que dans d'autres pays d'Europe occidentale, être moins nombreux à être déportés, ne l'ont pas été grâce à l'œuvre de Vichy ni du maréchal Pétain.
Oui, proportionnellement, parce que sur 280 000 individus recensés en 1940 comme appartenant à la race juive, plus de 78 000, il faut le rappeler, ont été déportés ou exécutés sur place. Ça fait 28%, c'est la proportion inverse des Pays-Bas, par exemple, 74% de morts. Mais la plupart des juifs assassinés le sont avant novembre 1942, avant l'occupation de la zone libre, à un moment où les Allemands n'ont pas les moyens, Laurent Joly le rappelle, il y a 10 personnes qui sont employées aux questions juives à la Gestapo en 42, n'ont pas les moyens de mettre en œuvre cette politique. Et c'est comme ça que termine Laurent Joly son article dans La Nouvelle Histoire de la Shoah. Si en 1942, Laval et Bousquet n'avaient pas mis toute la puissance de l'État au service des opérations anti-juives, le bilan de la Shoah en France aurait été moins élevé et la faute morale de Vichy moins lourde. Donc c'est pas avec des si qu'on fait l'histoire, Alexandre Romande, mais c'est avec des faits.
Tout à fait.
Et là, avec La Nouvelle Histoire de la Shoah, vous nous en amenez pour aujourd'hui, pour répondre aussi à nos hantises, nos inquiétudes et nos questions.
Le but est de remettre les choses à leur place et de proposer aux lecteurs, dans un temps troublé où n'importe qui dit n'importe quoi, où les élèves, les étudiants, les adultes ont parfois du mal à se repérer, où règne encore dans notre pays, comme dans notre société occidentale, bon nombre de comportements d'exclusion, d'agression et de violence à l'égard de l'autre, quel qu'il soit, il nous semblait également important de proposer quelque chose d'implacable, de clair, de précis, sur lequel on puisse s'arc-bouter lorsqu'on est confronté à une forme de malhonnêteté intellectuelle. Voilà.
Merci Alexandre Bande.
Merci à vous.
Merci Pape Ndiaye. Et merci Audrey Kishelevski qui était avec nous au téléphone. Cette émission a été préparée par Ophélie Vivier et réalisée par Xavier Pestugia. La technique était assurée aujourd'hui par Pierre Monteil. Vous retrouverez toutes les références bibliographiques sur le site de France Inter à la page de notre émission. Bon dimanche sur France Inter.